Chapitre 2, octobre 1815. Lundi 16 octobre 1815, débarquement de l'empereur à Sainte-Hélène. L'empereur, après son dîner, s'est embarqué avec l'amiral et le grand maréchal pour se rendre à terre. Un mouvement très remarquable avait réuni tous les officiers sur la dunette et une grande partie de l'équipage sur les passe-avant. Ce mouvement n'était plus celui de la curiosité, on se connaissait depuis 3 mois, l'intérêt le plus vif avait succédé. Avant de descendre dans le canot, l'empereur fit appeler le capitaine commandant du vaisseau, prit congé de lui, et le chargea de transmettre ses remerciements aux officiers et à l'équipage. Et ces paroles ne furent pas sans produire une grande émotion sur ceux qui les entendirent ou se les firent expliquer. Le reste de la suite de l'empereur débarqua sur les 8 heures. Nous fûmes accompagnés par plusieurs des officiers, tout le monde au demeurant, lorsque nous quittâmes le vaisseau, assemblés nous témoignaient une véritable sympathie. Nous trouvâmes l'empereur dans le salon qu'on lui avait destiné. Il monta peu d'instants après dans sa chambre, où nous fûmes appelés. Il n'était guère mieux qu'à bord du vaisseau. Nous nous trouvions placés dans une espèce d'auberge ou d'hôtel garni. La ville de Sainte-Hélène n'est autre chose qu'une très courte rue ou prolongement de maison le long d'une vallée étroite, resserrée entre 2 montagnes à pic d'un roc tout à fait nu et stérile. Mardi 17, l'empereur se fixe à Briare, description, situation misérable. À 6 heures du matin, l'empereur, le grand maréchal et l'amiral allèrent à cheval visiter Longwood, Longbois, maison qui avait été arrêtée pour sa résidence et située à 2 ou 3 lieues de la ville. À leur retour, ils virent une petite maison de campagne dans le prolongement de la vallée, à 2 milles au-dessus de la vallée. L'empereur répugnait extrêmement à retourner où il avait couché. Il s'y fut trouvé dans une réclusion plus complète encore qu'à bord du vaisseau. Des sentinelles gardaient les portes, des curieux se groupaient sous sa fenêtre. Il eut donc été strictement réduit à sa chambre. Un petit pavillon dépendant de cette petite maison de campagne lui plut, et l'amiral convint qu'il y serait mieux qu'à la ville. L'empereur s'y fixa et m'envoya chercher. Il s'était tellement attaché à son travail des campagnes d'Italie qu'il ne pouvait plus s'en passer. Je me mis aussitôt en route pour le rejoindre. La petite vallée où s'élève le hameau de Sainte-Hélène se prolonge dans l'île longtemps encore en serpentant au milieu de 2 chaînes de montagnes arides qui la bordent et la resserrent. Il y règne constamment un beau chemin de voitures très bien entretenu. Au bout de 2 milles environ, ce chemin n'est plus tracé que sur le flanc de la montagne même, sur lequel il s'appuie à gauche, ne montrant plus que précipices et abîmes sur son bord de la droite. Mais bientôt le terrain s'élargit en face et présente un petit plateau où se trouvent quelques bâtisses, de la végétation et plusieurs arbres. C'est une espèce de petite oasis au milieu des rochers. Là était la demeure modeste d'un négociant de l'île, M. Balcombe. À 30 ou 40 pas, à droite de la maison principale et sur un tertre à pic, se voit une espèce de guinguette ou petit pavillon servant à la famille dans les beaux jours pour aller prendre le thé et respirer plus à l'aise. C'était là le réduit loué par l'amiral pour la demeure temporaire de l'empereur qu'il occupait depuis le matin. Tout en gravissant les contours du monticule, qui sont très rapides, je l'aperçus en effet de loin et le contemplai. C'était bien lui, un peu courbé, les mains derrière le dos, cet uniforme si leste et si simple, ce petit chapeau si renommé. Il était debout sur le seuil de la porte, sifflant un air de vaudeville, quand je l'abordai. « Ah, vous voilà, me dit-il, pourquoi n'avez-vous pas amené votre fils ?»« Sire, répondis-je, le respect, la discrétion m'en ont empêché. »« Vous ne sauriez vous en passer, continua-t-il, faites-le venir. » Jamais l'empereur, dans aucune de ses campagnes, peut-être dans aucune des situations de sa vie, n'eut sans doute de logement plus exigu et autant de privations. Le tout ici consistait en une seule pièce au rez-de-chaussée, de forme à peu près carrée, une porte sur chacun des 2 côtés opposés, du reste sans rideau, sans volet, à peine un siège. L'empereur en ce moment se trouvait seul, et ses deux valets de chambre étaient à courir pour lui composer un lit. Il lui prit la fantaisie de marcher un peu, or le monticule n'offrait pas de terre-plein sur aucune des faces de la petite guinguette, ce n'était tout autour que grosses pierres et débris de rochers. Il prit mon bras et se mit à causer gaiement. Cependant la nuit se faisait, le calme était profond, la solitude entière. Quelle foule de sensations et de sentiments vinrent m'assaillir en cet instant! Je me trouvais donc seul, tête à tête, dans le désert, presque en familiarité, avec celui qui avait gouverné le monde, avec Napoléon enfin. Tout ce qui se passait en moi, tout ce que j'éprouvais. Mais pour bien le comprendre, il faudrait peut-être se reporter au temps de sa toute-puissance, au temps où il suffisait d'un seul de ses décrets pour renverser des trônes ou créer des rois. Il faudrait se mettre bien dans l'esprit ce qu'il faisait éprouver, aux Tuileries, à tout ce qui l'entourait. L'embarras timide, le respect profond avec lequel l'abordaient ses ministres, ses officiers, l'anxiété, la crainte des ambassadeurs, celle des princes et même des rois. Or, rien de tout cela n'était altéré en moi. Lorsque l'empereur voulut se coucher, il se trouva qu'une fenêtre donnait à nu sur le côté de son lit, presque à la hauteur de son visage. Nous la barricadâmes du mieux que nous pûmes pour le préserver de l'air auquel il est très sensible, le plus léger courant suffisant pour l'enrhumer ou lui causer des maux de dents. Quant à moi, je gagnais le comble, précisément au-dessus de l'empereur. Espace de 7 pieds carrés, où il n'y avait qu'un lit, sans un seul siège. C'est là que fut mon gîte et celui de mon fils, pour lequel il fallut placer un matelas par terre. Pouvions-nous nous plaindre? Nous étions si près de l'empereur. De là, nous entendions le son de sa voix, même ses paroles. Ses valets de chambre se couchèrent par terre, en travers de la porte, enveloppés dans leurs manteaux. Voilà la description littérale de la première nuit de Napoléon à Briars, au Ronce, c'était le nom de l'endroit. Mercredi 18, description de Briars, son jardin, rencontre des petites demoiselles de la maison. J'avais déjeuné avec l'empereur, il n'y avait ni nappe ni serviette, son déjeuner était le reste du dîner de la veille. Un officier anglais avait été logé dans la maison voisine pour notre garde, et 2 sous-officiers allaient et venaient militairement sous nos yeux pour surveiller nos mouvements. Le déjeuner fini, l'empereur s'est mis au travail qui a duré 2 heures. Après le travail, il lui a pris fantaisie d'explorer notre nouveau domaine, de découvrir le terrain environnant, d'en prendre possession. En descendant de notre tertre par le côté opposé à la maison principale, nous trouvâmes un sentier bordé d'une haie de raquettes et longeant des précipices, lequel nous conduisit au bout de 200 pas à un petit jardin dont la porte se trouvait ouverte. Ce jardin est tout en longueur et d'un terrain très inégal. Une allée assez plénière en parcourt l'étendue. À l'entrée, une espèce de berceau forme l'une des extrémités. À l'autre bout sont 2 cahutes où logent les nègres chargés du soin du jardin. Il s'y trouvait des arbres fruitiers et quelques fleurs. À peine n'y étions-nous entrés que nous y fîmes joints par les 2 filles du maître de la maison, âgées de 14 à 15 ans. L'une vive, étourdie, ne respectant rien, l'autre plus posée mais d'une grande naïveté, toutes 2 parlant un peu le français. Elles eurent bientôt parcouru le jardin et mis tout à contribution pour l'offrir à l'empereur, qu'elles accablèrent des questions les plus bizarres et les plus ridicules. L'empereur s'amusa beaucoup de cette familiarité, si nouvelle pour lui. « Nous sortons du bal masqué, me dit-il, quand nous les eûmes quittés. » Jeudi 19, vendredi 20. Sur la jeunesse française, l'empereur visite la maison voisine. Naïveté. L'empereur fait appeler mon fils pour déjeuner, qu'on juge de toute sa joie à une telle faveur. C'était la première fois qu'il allait le voir d'aussi près, l'entendre, peut-être lui parler. Son saisissement était extrême. Du reste, la table demeurait encore sans nappe. Le repas continuait de s'apporter de la ville et ne présentait que 2 ou 3 mauvais plats. Aujourd'hui, il s'y trouvait un poulet. L'empereur l'a voulu couper lui-même et nous l'a distribué. Il s'étonnait d'y réussir aussi bien. Il y avait si longtemps, disait-il, qu'il n'en avait pas fait autant, car toute sa galanterie, ajoutait-il, avait été se perdre pour toujours dans les affaires et les soucis de son généralat d'Italie. Le café, qui était un besoin pour l'empereur, s'est trouvé si mauvais qu'il s'est cru empoisonné. Il l'a jeté et m'a fait renvoyer le mien. L'empereur se servait en ce moment d'une tabatière où se trouvaient enchâssées plusieurs médailles antiques. Des inscriptions grecques étaient autour. L'empereur, doutant d'un des noms de ses portraits, m'a dit de les lui traduire, et comme je lui répondais que c'était au-dessus de mes forces, il s'est mis à rire, disant « Vous n'êtes donc pas plus fort que moi ». Alors mon fils s'est offert en tremblant et a lu Mithridate, Démétrius Poliocétès et quelques autres. L'extrême jeunesse de mon fils et cette circonstance ont alors attiré l'attention de l'empereur. « Quoi ? Votre fils en est déjà là » a-t-il dit. « C'est bien. » Et il s'est mis à le questionner longuement sur son lycée, ses maîtres, leurs leçons. Et puis, revenant à moi, « Quelle jeunesse » a-t-il dit, « je laisse après moi, c'est pourtant mon ouvrage. Elle me vengera suffisamment par tout ce qu'elle vaudra. À l'œuvre, il faudra bien après tout qu'on rende justice à l'ouvrier. Et le travers d'esprit ou la mauvaise foi des déclamateurs tombera devant mes résultats. Si je n'eusse songé qu'à moi, à mon pouvoir, ainsi qu'ils l'ont dit et le répètent sans cesse, si j'eusse réellement eu un autre but que le règne de la raison, j'aurais cherché à étouffer les lumières sous le boisseau. Au lieu de cela, on ne m'a vu occuper que de les produire au grand jour. Et encore n'a-t-on pas fait pour ses enfants tout ce dont j'avais eu la pensée. Mon université, telle que je l'avais conçue, était un chef-d'œuvre dans ses combinaisons et devait en être un dans ses résultats nationaux. Un méchant homme m'a tout gâté, et cela avec une mauvaise intention, et par calcul sans doute, etc. Le soir venu, l'empereur a voulu entrer chez les voisins. Le maître, pris par la goutte, était en robe de chambre, étendu sur son canapé. Sa femme et nos deux petites demoiselles du matin étaient autour de lui. Le bal masqué a repris de plus belle. On a fait échange de tout ce qu'on savait. On a parlé de romans. L'une des petites avait lu Mathilde de Madame Cottin. Ce fut une très grande joie de voir que l'empereur le connaissait. Un gros anglais à face carrée, vrai vacuum plenum à ce qu'il paraît, qui écoutait vaguement de toutes ses oreilles pour tâcher de mettre à profit son peu de français, se hasarda de demander, avec réserve, à l'empereur si la princesse, amie de Mathilde, dont il admirait particulièrement l'excellent caractère, vivait toujours. L'empereur lui répondit avec solennité, « Non, monsieur, elle est morte et enterrée. » Et il allait se croire mystifié, disait-il, quand il vit, à cette malheureuse nouvelle, les larmes prêtes à couler dans les grands et gros yeux de la grosse face. Une des petites filles ne fut pas moins naïve, c'était plus pardonnable. Toutefois, j'en dus conclure qu'on n'était pas fort ici en chronologie. Parcourant Estelle de Florian pour montrer qu'elle lisait le français, elle tomba sur Gaston de Foix, et, le voyant qualifié de général, elle demanda à l'empereur s'il avait été bien content de lui dans ses armées, s'il avait échappé à toutes les batailles et s'il vivait encore. Samedi 21, l'amiral vient voir l'empereur. L'amiral, dans la matinée, est venu rendre visite à l'empereur. Il a frappé à sa porte. Si je ne m'y fusse pas trouvé, l'empereur eût été dans la nécessité d'aller ouvrir lui-même, où l'amiral y serait encore. Tous les membres épars de notre petite colonie sont venus aussi de la ville, et nous nous sommes trouvés un instant tous réunis. Chacun a raconté ses nombreuses misères, et l'empereur les a ressenties d'autant plus vivement. Dimanche 22 au mardi 24, horreurs et misères de notre exil, indignation de l'empereur, note envoyée au gouvernement anglais. Les ministres anglais, en violant les lois de l'hospitalité auxquelles nous nous étions abandonnés avec tant de confiance, semblaient n'avoir rien épargné pour rendre cette violation plus amère et plus sensible. En nous reléguant au bout de la terre, au milieu des privations, des mauvais traitements, des besoins de toute espèce, ils avaient voulu nous faire boire le calice jusqu'à la lie. Sainte-Hélène est une véritable Sibérie. La différence n'en est que du chaud au froid et dans son peu d'étendue. L'empereur Napoléon, qui possédait tant de puissance et disposa de tant de couronnes, s'y trouve réduit à une méchante petite cahute de quelques pieds en carré, perchée sur un roc stérile, sans rideaux, ni volets, ni meubles. Là, il doit se coucher, s'habiller, manger, travailler, demeurer. Il faut qu'il sorte s'il veut qu'on la nettoie. Pour sa nourriture, on lui apporte de loin quelques mauvais plats, comme à un criminel dans son cachot. Il manque réellement des premiers besoins de la vie. Le pain, le vin ne sont point les nôtres, ils nous répugnent. L'eau, le café, le beurre, l'huile et les autres nécessités y sont rares et à peine supportables. Un bain, si nécessaire à sa santé, ne se trouve pas. Il ne peut prendre d'exercice à cheval. Ses compagnons, ses serviteurs, sont à 2 000 de lui. Ils ne peuvent parvenir auprès de sa personne qu'accompagnés d'un soldat. Ils demeurent privés de leurs armes, sont condamnés à passer la nuit au corps de garde s'ils reviennent trop tard ou s'il y a quelques méprises de consignes, ce qui arrive presque chaque jour. Ainsi se réunissent pour nous, sur la cime de cet affreux rocher, la dureté des hommes et les rigueurs de la nature. Et pourtant, il eût été facile de nous procurer une demeure plus convenable et des traitements plus doux. Certes, si les souverains de l'Europe ont arrêté cet exil, une haine secrète en a dirigé l'exécution. Si la politique seule a dicté cette mesure comme nécessaire, n'eût-elle pas dû, pour en convaincre le monde, entourer d'égards de respect, de dédommagement de toute espèce, l'illustre victime vis-à-vis de laquelle elle se dit forcée de violer les principes et les lois? Nous nous trouvions tous auprès de l'empereur. Il récapitulait avec chaleur tous ses faits. « Ah, quel infâme traitement ils nous ont réservé !» s'écriait-il. « Ce sont les angoisses de la mort. À l'injustice, à la violence, ils joignent l'outrage, les supplices prolongés. Si je leur étais si nuisible, que ne se défaisaient-ils de moi ? Quelques balles dans le cœur ou dans la tête eussent suffi. Il y eut du moins quelque énergie dans ce crime. Si ce n'était vous autres, et vos femmes surtout, je ne voudrais recevoir ici que la ration du simple soldat. » Comment les souverains de l'Europe peuvent-ils laisser polluer en moi ce caractère sacré de la souveraineté? Ne voient-ils pas qu'ils se tuent de leurs propres mains à Sainte-Hélène? Je suis entré en vainqueur dans leur capitale. Si j'eusse apporté les mêmes sentiments, que seraient-ils devenus? Ils m'ont tous appelé leurs frères. Je l'étais devenu par le choix des peuples, la sanction de la victoire, le caractère de la religion, les alliances de leur politique ou de leur sang. Croient-ils donc le bon sens des peuples insensibles à leur morale, et qu'en attendent-ils? Toutefois, faites vos plaintes, messieurs, que l'Europe les connaisse et s'en indigne. Les miennes sont au-dessus de ma dignité et de mon caractère. J'ordonne ou je me tais. » Le lendemain, un officier ouvrit tout bonnement la porte et s'introduisit lui-même, sans plus de façon, dans la chambre de l'empereur où j'étais à travailler avec lui. Ses intentions, du reste, étaient bonnes. C'était le capitaine d'un des petits bâtiments venus avec nous, qui repartait pour l'Europe et avait voulu venir prendre les ordres de l'empereur. Napoléon revint sur le sujet de la veille et, s'animant par degrés, lui exprima, pour son gouvernement, les pensées les plus élevées, les plus fortes, les plus remarquables. Je les traduisais à mesure et rapidement. L'officier semblait frappé de chaque phrase et nous quitta, promettant d'accomplir fidèlement sa mission. Mais rendra-t-il les expressions, l'accent surtout, dont je fus témoin? L'empereur en fit rédiger une espèce de note que l'officier aura trouvée bien faible auprès de ce qu'il avait entendu d'abondance. La voici. Note. L'empereur désire, par le retour du prochain vaisseau, avoir des nouvelles de sa femme et de son fils, et savoir si celui-ci vit encore. Il profite de cette occasion pour réitérer et faire parvenir au gouvernement britannique les protestations qu'il a déjà faites contre les étranges mesures adoptées contre lui. Premièrement, le gouvernement l'a déclaré prisonnier de guerre. L'empereur n'est point prisonnier de guerre. Sa lettre au régent, écrite et communiquée au capitaine Maitland avant de se rendre à bord du Bellérophon, prouve assez au monde entier les dispositions et la confiance qui l'ont conduit librement sous le pavillon anglais. L'empereur eût pu ne sortir de France que par des stipulations qui eussent prononcé sur ce qui était relatif à sa personne, mais il a dédaigné de mêler des intérêts personnels avec les grands intérêts dont il avait constamment l'esprit occupé. Il eût pu se mettre à disposition de l'empereur Alexandre, qui avait été son ami, ou de l'empereur François, qui était son beau-père. Mais, dans la confiance qu'il avait dans la nation anglaise, il n'a voulu d'autre protection que les lois, et, renonçant aux affaires publiques, il n'a cherché d'autres pays que les lieux qui étaient gouvernés par des lois fixes, indépendantes des volontés particulières. Deuxièmement, si l'empereur eût été prisonnier de guerre, les droits des nations civilisées sur un prisonnier de guerre sont bornés par le droit des gens et finissent d'ailleurs avec la guerre même. Troisièmement, le gouvernement anglais, considérant l'empereur, même arbitrairement, comme prisonnier de guerre, son droit se trouvait alors borné par le droit public, ou bien il pouvait, comme s'il n'y avait point de cartel entre les deux nations dans la guerre actuelle, adopter vis-à-vis de lui les principes des sauvages qui donnent la mort à leurs prisonniers. Ce droit eût été plus humain, plus conforme à la justice, que celui de le porter sur cet affreux rocher. La mort qui lui eût été donnée à bord du Bellérophon, en rade de Plymouth, eût été un bienfait en comparaison. Nous avons parcouru les contrées les plus infortunées de l'Europe. Aucune ne saurait être comparée à cet aride rocher. Privé de tout ce qui peut rendre la vie supportable, il est propre à renouveler à chaque instant les angoisses de la mort. Les premiers principes de la morale chrétienne et ce grand devoir imposé à l'homme de suivre sa destinée, quelle qu'elle soit, peuvent seuls l'empêcher de mettre lui-même un terme à une si horrible existence. L'empereur met de la gloire à demeurer au-dessus d'elle, mais si le gouvernement britannique devait persister dans ses injustices et ses violences envers lui, il regarde comme un bienfait qu'il lui fasse donner la mort. Le bâtiment partant pour l'Europe, chargé de cette note, était le Red Paul, capitaine Desmond. Qu'on nous passe l'insipide monotonie de nos plaintes, on les trouvera toujours les mêmes sans doute, mais qu'on se dise bien qu'elles ont dû nous causer beaucoup plus d'ennui à les répéter qu'on en aura à les lire. Mercredi 25 ou vendredi 27, vie de Briard, etc., nécessaire d'Austerlitz, grand nécessaire de l'empereur, son contenu, objet, libelle contre l'empereur, etc., abandonné aux Tuileries. L'empereur s'habillait de fort bonne heure, il faisait dehors quelques tours, nous déjeunions vers les 10 heures, il se promenait encore, et nous nous mettions ensuite au travail. Je lui lisais ce qu'il m'avait dicté la veille, que mon fils avait recopié le matin. Il le corrigeait et me dictait pour le lendemain. Nous ressortions sur les 5 heures et revenions dîner à 6 heures, si toutefois le dîner était arrivé de la ville. La journée était bien longue, les soirées l'étaient bien plus encore. Malheureusement, je ne connaissais pas les échecs. J'eus un moment envie de les apprendre la nuit, mais comment et de qui? Je me donnais pour savoir un peu le piquet. L'empereur s'aperçut bientôt de mon ignorance. Il tint compte de mon intention, mais cessa. Quelquefois, le désœuvrement le conduisait dans la maison voisine, où les petites demoiselles le faisaient jouer au whist. Le plus souvent encore, il restait à table après le dîner et causait assis, car la chambre était trop petite pour s'y promener. Un de ces soirs, il se fit apporter un petit nécessaire de campagne, en examina minutieusement toutes les parties, et me le donna, disant « Il y a bien longtemps que je l'ai, je m'en suis servi le matin de la bataille d'Austerlitz. Il passera au petit Emmanuel, continua-t-il, en regardant mon fils. Quand il aura 30 ou 40 ans, nous ne serons plus, mon cher, l'objet n'en sera que plus curieux. Il le fera voir et dira « C'est l'empereur Napoléon qui l'a donné à mon père à Sainte-Hélène. » Je me saisis du don précieux et je lui porte une espèce de culte. Je le vénère comme une sorte de relique. Passant de là à l'examen d'un grand nécessaire, il parcourut des portraits de sa propre famille et des présents qui lui avaient été faits à lui-même. C'étaient les portraits de Madame, de la reine de Naples, des filles de Joseph, de ses frères, du roi de Rome, etc. Un Auguste et une Livie des plus rares, une continence de Scipion et une autre antique du plus grand prix donnée par le pape. Un Pierre le Grand sur boîte, une autre boîte avec un Charles Quint, une autre encore avec un Turenne, d'autres enfin dont il se sert journellement, couvertes de médaillons rassemblés de César, d'Alexandre, de Sylla, de Mithridate, etc. Venaient ensuite quelques tabatières, où était son portrait enrichi de diamants. Il en chercha alors tout à coup 100 diamants. Ne le trouvant pas, il appela son valet de chambre pour qu'on le lui donnât. Malheureusement, ce portrait se trouvait encore à la ville avec le gros de ses effets. J'en fus fâché, je pouvais croire que j'y perdais quelque chose. L'empereur alors passa en revue plusieurs tabatières de Louis XVIII qui avaient été laissées sur sa table aux Tuileries lors de son départ précipité. L'une présentait sur un fond noir une pâte imitant l'ivoire et, dans une contexture bizarre, le portrait de Louis XVI, de la reine et de Madame Élisabeth. Ils formaient trois croissants, adossés l'un à l'autre en forme de triangle équilatéral. Une quantité de chérubins, fort serrés, formait la bordure extérieure. Une autre boîte représentait une châsse où la vie est croquée et qui ne pouvait avoir d'autre mérite que la main qu'il avait faite, on la croyait de Madame la Duchesse d'Angoulême. Une troisième, enfin, présentait un portrait qui devait être, selon les apparences, celui de la comtesse de Provence. Ces trois objets étaient simples et même communs et ne pouvaient avoir de précieux que leur historique. En arrivant à Paris le 20 mars au soir, l'empereur trouva le cabinet du roi dans le même état où il avait été occupé. Tous les papiers demeuraient encore sur les tables. L'empereur fit pousser ses tables dans les angles de l'appartement et en fit apporter de nouvelles. Il voulut qu'on ne touchât à rien, se réservant d'examiner ses papiers dans ses moments perdus. Et comme l'empereur a quitté lui-même la France sans rentrer aux Tuileries, le roi aura trouvé sa chambre et ses papiers à peu près comme il les avait laissés. L'empereur jeta les yeux sur quelques-uns de ses papiers. Il y trouva des lettres du roi et monsieur d'Avary à Madère où il est mort. Elles étaient de sa main et lui avaient sans doute été renvoyées. Il y trouva aussi d'autres lettres très confidentielles du roi, pareillement de sa main. Mais comment se trouvait-elle là? Comment lui était-elle parvenue? Cela était plus difficile à expliquer. Elles étaient de 5 à 6 pages, fort purement écrites, de beaucoup d'esprit, disait l'empereur, mais très abstraites et fort métaphysiques. Dans l'une, le prince disait à la personne à laquelle il s'adressait « Jugez, madame, si je vous aime, vous m'avez fait quitter le deuil ». Et ce deuil, disait Napoléon, amenait de longs paragraphes d'un style tout à fait académique. L'empereur ne devinait pas à qui cela pouvait s'adresser, ni ce que ce deuil pouvait signifier. J'étais hors d'état de pouvoir lui donner aucun renseignement. C'est sur une de ces tables que 2 ou 3 jours après avoir reconfirmé quelqu'un à la tête d'une institution célèbre, l'empereur trouva un mémoire de cette personne qui, assurément, l'eût empêché de le nommer à nouveau, par la manière dont elle s'exprimait à l'égard de lui et de toute sa famille. Il y avait encore beaucoup d'autres pièces de cette nature, mais les véritables archives de la bassesse, du mensonge et de la vilenie se trouvaient dans les appartements de monsieur de Blacas, grand maître de la garde-robe, ministre de la maison. Ils étaient pleins de projets, de rapports et de pétitions de toute espèce. Il était peu de ces pièces où l'on ne se fit valoir, aux dépens de Napoléon, qu'on était assurément bien loin d'attendre. Le tout était si volumineux que l'empereur fut obligé de nommer une commission de 4 membres pour en faire le dépouillement. Il regarde comme une faute de n'avoir pas confié ce dépouillement à une seule personne, et tellement à lui qu'il fut sûr qu'on n'y aurait rien soustrait. Il y a des raisons de croire qu'il eût trouvé déjà des indices salutaires sur les perfidies dont il s'est vu entouré à son retour de Waterloo. On trouva entre autres une longue lettre d'une des femmes de la princesse Pauline. Cette volumineuse lettre s'exprimait fort mal sous la princesse et ses sœurs et ne parlait de cet homme, c'était l'empereur, que sous les plus mauvaises couleurs. On n'avait pas cru que ce fût assez, on en avait raturé une partie et interligné d'une main étrangère pour y faire arriver Napoléon lui-même de la manière la plus scandaleuse. Et à la marge et de la main de l'interligneur, il y avait « bon à imprimer ». Quelques jours de plus, probablement ce petit libelle allait voir le jour. Une parvenue, tenant un rang distingué dans l'État, courbée sous les bienfaits de l'empereur, écrivait en toute hâte à sa camarade de même espèce pour lui apprendre la fameuse décision du Sénat touchant à la déchéance et à la proscription de Napoléon. « Ma chère amie, mon mari rentre, il est mort de fatigue, mais ses efforts l'ont emporté, nous sommes délivrés de cet homme et nous aurons les Bourbons. Dieu soit loué, nous serons donc de vraies comtesses, etc. » Parmi ces pièces, Napoléon eut la mortification d'en rencontrer de très inconvenantes sur sa personne, et cela de la main même de certains qui, la veille, étaient accourus auprès de lui et tenaient déjà de ses faveurs. Dans son indignation, sa première pensée fut d'imprimer ses pièces et de retirer ses bienfaits. Un second mouvement l'arrêta. « Nous sommes si volatiles, si inconséquents, si faciles à enlever, disait-il, qu'il ne me demeurait pas prouvé, après tout, que ces mêmes gens ne fussent pas revenus réellement de bon cœur à moi. et j'allais peut-être les punir quand ils recommençaient à bien faire. Il valait mieux ne pas savoir, et je fis tout brûler. Samedi 28 au mardi 31. L'empereur commence la campagne d'Égypte avec le grand maréchal, anecdote sur Brumaire, etc., lettre du comte de Lille, la belle duchesse de Guiche. Nous travaillons, mon fils et moi, avec la plus grande constance. Il commençait à être malade, la poitrine lui faisait mal, mes yeux se perdaient, nous souffrions réellement de notre grande occupation. Il est vrai que nous avions fait un travail étonnant, nous étions déjà presque à la fin des campagnes d'Italie. Cependant, l'empereur ne se trouvait pas encore assez occupé. Le travail était sa seule ressource, et ce qu'il avait déjà dicté avait pris assez de couleur pour l'y attacher encore davantage. Il allait atteindre bientôt l'époque de son expédition d'Égypte. Il avait souvent parlé d'y employer le grand maréchal. D'un autre côté, ceux d'entre nous qui demeuraient à la ville y étaient mal et s'y trouvaient malheureux d'être éloignés de l'empereur. Leur caractère s'aigrissait par cette circonstance, et des contrariétés de toute espèce venaient ajouter à leur chagrin. Je suggérais à l'empereur de nous employer tous ensemble à son travail, et d'attaquer ainsi tout à la fois les campagnes d'Italie, celles d'Égypte, le consulat, le retour de l'île d'Elbe. Les heures lui deviendraient plus courtes. Ce bel ouvrage, la gloire de la France, marcherait plus vite, et ces messieurs seraient beaucoup moins malheureux. Cette idée lui sourit, et à compter de cet instant, un ou deux de ces messieurs venaient régulièrement recevoir la dictée de l'empereur. Il la lui rapportait le lendemain, restait à dîner, et lui procurait ainsi un peu plus de diversion. Nous nous étions arrangés aussi de manière à ce qu'insensiblement l'empereur se trouvât un peu mieux sous bien des rapports. En prolongement de la chambre qu'il occupait, on dressa une assez grande tente que m'avait fait offrir le général-colonel du 53e. Le cuisinier de l'empereur vint s'établir à Briars, on tira du linge des malles, on sortit l'argenterie, et le premier dîner de la sorte se trouva être une petite fête, mais les soirées demeuraient toujours aussi difficiles à passer. L'empereur retournait quelquefois dans la maison voisine, quelquefois il essayait de marcher hors de sa chambre, et plus souvent encore il y demeurait à causer, cherchant à atteindre 10 ou 11 heures. Il redoutait de se coucher trop tôt, il s'éveillait alors au milieu de la nuit, et cherchant à fuir ses réflexions, il était obligé de se relever pour lire. Un de ces jours, à dîner, l'empereur trouva sous ses yeux une de ses propres assiettes de campagne aux armes royales. « Comme ils m'ont gâté tout cela, dit-il, en expression bien autrement énergique, et il ne put s'empêcher d'observer que le roi s'était bien pressé de prendre possession de ces objets. » Qu'à coup sûr, il ne pouvait réclamer cette argenterie comme lui ayant été enlevée, bien qu'elle était incontestablement à lui, car quand il montra sur le trône, il ne s'était trouvé nul vestige de propriété royale. En le quittant, il avait laissé à la couronne 5 millions d'argenterie et peut-être 40 ou 50 millions de meubles, le tout de ses propres deniers provenant de sa liste civile. L'empereur, dans la conversation d'une de ces soirées, a raconté l'événement de Brumaire. J'en supprime ici les détails parce qu'ils ont été dictés plus tard au général Gourgaud et qu'on retrouvera l'ensemble de ce grand événement dans la publication des dictées de Napoléon. Sieyès, qui était un des consuls provisoires avec Napoléon et qui, à la première conférence, le vit discuter tout à la fois les finances, l'administration, l'armée, la politique, les lois, sortit déconcerté et courut dire à ses intimes en parlant de lui « Monsieur, vous avez un maître, cet homme sait tout, veut tout et peut tout ». J'étais à Londres à cette époque, et je disais à l'empereur que nous avions conçu de grandes espérances, que nous avions compté beaucoup sur le 18 Brumaire et sur son consulat. Plusieurs de nous, qui avaient connu jadis Madame de Beauharnais, partirent aussitôt pour Paris dans l'espoir de parvenir, par elle, à exercer quelque influence ou imprimer quelque direction aux affaires qui se présentaient sous une face nouvelle. Nous pensâmes généralement, dans le temps, que le premier consul avait attendu des propositions de nos princes. Nous nous appuyons sur ce qu'il avait été assez longtemps sans se prononcer à leur égard, ce qu'il avait fait plus tard dans une proclamation d'une manière accablante. Nous attribuions ce résultat à la gaucherie et à la brutalité de l'évêque d'Arras, le conseiller, le directeur suprême de nos affaires, qui, du reste, de son propre aveu, opérait les yeux fermés, se vantant de n'avoir pas lu, disait-il, une seule gazette depuis le temps qu'elle ne contenait que les succès ou les mensonges de ces misérables. Au moment du consulat, quelqu'un ayant voulu lui donner l'idée de tenter quelques négociations auprès du consul, par l'intermédiaire de Madame Bonaparte, il repoussa la chose avec indignation et dans les termes les plus sales et les plus orduriers, ce qui força l'auteur de la proposition à lui dire que de telles expressions n'étaient guère épiscopales et qu'il ne les avait certainement pas lues dans son bréviaire. Dans le même temps, il apostropha grossièrement le duc de Choiseul à la table même du prince et en fut tensé tout aussi vertement. Le tout parce que le duc de Choiseul, sortant des prisons de Calais et échappant à la mort par le bienfait du consul, terminait les renseignements que lui demandait le prince sur Bonaparte en protestant que pour lui, désormais, il ne pourrait plus désavouer une reconnaissance personnelle. L'empereur disait à tout cela qu'il n'avait jamais songé au prince, que les phrases auxquelles je faisais allusion étaient d'un autre des consuls et sans motif particulier, que nous semblions, au dehors, ne nous être jamais doutés de l'opinion du dedans, que s'il eût eu pour les princes des dispositions favorables, il n'eût pas été en son pouvoir de les accomplir. Toutefois, il avait reçu, de ce temps-là, des ouvertures de Mitau et de Londres. Le roi lui écrivit, disait-il, une lettre qui lui fut remise par Lebrun, lequel la tenait de l'abbé de Montesquieu, agent secret de ce prince à Paris. Cette lettre, extrêmement soignée, disait « Vous tardez beaucoup à me rendre mon trône. Il est à craindre que vous ne laissiez écouler des moments bien favorables. Vous ne pouvez pas faire le bonheur de la France sans moi, et moi je ne puis rien pour la France sans vous. Hâtez-vous donc et désignez-vous-même toutes les places qui vous plairont pour vos amis. » Le premier consul répondit « J'ai reçu la lettre de votre Altesse royale, j'ai toujours pris un vif intérêt à ses malheurs et à ceux de sa famille, elle ne doit pas songer à se présenter en France, elle n'y parviendrait que sur 100 000 cadavres. Du reste, je m'empresserai toujours à faire tout ce qui pourrait adoucir ses destinées et lui faire oublier ses malheurs. » L'ouverture de M. le comte d'Artois eut plus d'élégance et de recherche encore. Il dépêcha la duchesse de Guiche, femme charmante, très propre par les grâces de sa figure, à mêler beaucoup d'attrait à l'importance de sa négociation. Elle pénétra facilement auprès de Madame Bonaparte, avec laquelle toutes les personnes de l'ancienne cour avaient des contacts naturels. Elle en reçut un déjeuner à la Malmaison et, durant le repas, parlant de Londres, de l'émigration et de nos princes, Madame de Guiche raconta qu'il y avait peu de jours, étant chez M. le comte d'Artois, quelqu'un parlant des affaires avait demandé au prince ce qu'on ferait pour le premier consul s'il rétablissait les Bourbons. Ce prince avait répondu « D'abord connétable et tout ce qui s'ensuit, si cela lui plaisait. Mais nous ne croirions pas que cela fût encore assez. Nous élèverions sur le carrousel une haute et magnifique colonne sur laquelle serait la statue de Bonaparte couronnant les Bourbons. » Le premier consul arrivant quelque temps après le déjeuner, Joséphine n'eut rien de plus pressé que de lui rendre cette circonstance. « Et as-tu répondu, lui dit son mari, que cette colonne aurait pour piédestal le cadavre du premier consul ?» La jolie duchesse était encore là. Les charmes de sa figure, ses yeux, ses paroles étaient dirigés au succès de sa mission. Elle était heureuse, disait-elle, elle ne saurait jamais assez reconnaître la faveur que lui procurait en ce moment Madame Bonaparte de voir et d'entendre un grand homme, un héros. Mais tout fut vain. La duchesse de Guiche reçut dans la nuit l'ordre de quitter Paris, et les charmes de l'émissaire étaient trop propres à alarmer Joséphine pour qu'elle insistât ardemment en sa faveur. Le lendemain, la duchesse de Guiche était en route pour la frontière. « Du reste, le bruit courut plus tard, disait Napoléon, que j'avais fait à mon tour au prince français des propositions touchant à la cession de leurs droits ou leur renonciation à la couronne, ainsi qu'on s'est complu à le consacrer dans des déclarations pompeuses répandues en Europe avec profusion. Il n'en était rien, et comment cela aurait-il pu être? Moi qui ne pouvais régner précisément que par le principe qui les faisait exclure, celui de la souveraineté du peuple. Comment aurais-je cherché à tenir d'eux des droits que l'on proscrivait dans leur personne? C'eût été trop lourd, l'absurdité trop criante, elle m'eût noyé pour toujours dans l'opinion. Aussi, directement ou indirectement, de près ni de loin, je n'ai rien fait qui puisse se rapporter à cela. C'est ce qu'auront pensé sans doute dans le temps les gens réfléchis qui m'accordaient de n'être ni fou ni imbécile. Toutefois, la rumeur causée par cette circonstance me porta à faire rechercher ce qui pouvait y avoir donné lieu, et voici ce que j'ai pu recueillir. Au temps de notre intelligence avec la Prusse, et lorsqu'elle s'occupait de nous être agréable, elle fit demander si de souffrir des princes français sur son territoire nous causerait de l'ombrage, et on répondit que non. Enhardie, elle demanda si on aurait une trop grande répugnance à la mettre à même de leur procurer des secours annuels. On lui répondit encore que non, pourvu qu'elle garantît qu'il demeurerait tranquille et s'abstiendrait de toute intrigue. Cette affaire se traitant entre eux et la négociation une fois en train, Dieu sait ce que le zèle de quelque agent ou même les doctrines du cabinet de Berlin, qui n'étaient pas les nôtres, peuvent avoir proposé. Voilà sans doute le motif et le prétexte qui donnèrent lieu à cette belle lettre de Louis XVIII qui fut fort admirée et à laquelle adhérèrent avec éclat tous les membres de sa famille. Ces princes saisirent avidement cette occasion pour réveiller en leur faveur l'intérêt et l'attention de l'Europe qui, distraite par les grands événements du temps, ne s'en occupait plus.